Bonsoir, comment allez-vous? J'aimerais vous parler chien ce soir. Tout à l'heure, à 22h dans État d'esprit, Éric-Emmanuel Schmitt évoquera sa dernière pièce, Le chien. Il s'agit d'un chien qui a rendu son humanité à un homme. Et puis, j'aimerais vous parler de cet autre chien qui a fait sa carrière en Amérique mais qui est né en France. À la fin de la guerre de 14, un soldat américain trouve sur le front de l'Est une portée de chiots laissée là par les Allemands. En douce, il ramène un chiot chez lui à Los Angeles. C'est Rintintin. Nanette et Rintintin, nous dit Jean-Michel Derex dans La véritable histoire de Rintintin, un livre édité chez Pierre de Taillac. Rintintin, c'était le nom d'une petite poupée que les soldats poilus s'accrochaient au revers de leur veste pour leur porter chance. Le chien était devenu splendide et très puissant. Un jour où son maître, Lee Duncan, c'était lui, le soldat américain, un jour où il l'entraînait à sauter, il se fait aborder par un producteur d'Hollywood. « Et dites-moi, votre chien, là, ça lui dirait de tourner dans un film ?» Rintintin a tourné 26 films. Il a gagné des millions de dollars. Il avait une limousine, avec un chauffeur, bien sûr. À sa mort, en 1932, Lee Duncan a voulu le faire enterrer dans la terre de France où il était né. Rintintin est au cimetière des chiens d'Asnières, en banlieue parisienne, et il a son étoile sur Hollywood Boulevard.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 7 ans, je voudrais bien savoir pourquoi ça fait du bien de parler à son chien.
Marie-Hélène Chiarisoli, vous êtes vétérinaire attachée au Muséum d'Histoire Naturelle. Pourquoi ça fait du bien de parler à son chien, demande Marie.
Bonjour Marie, c'est une bonne question, parce que, en fait, parler à son chien, c'est parce que c'est un animal de compagnie. C'est fait pour ça. Au départ, le chien, il est là pour, à mon avis, plutôt pour travailler, mais il a rempli tellement bien sa fonction qu'il est devenu un animal de compagnie. Et ça fait du bien de parler à son chien, parce que le chien, il vous écoute vraiment. Il est réactif, il pose sa tête sur vos genoux, il vous fait les yeux blancs, là, c'est absolument irrésistible. Vous, ben, ça vous fait parler, parce que tout le monde ne vous écoute pas comme un chien. C'est une compagnie énorme.
Qu'est-ce que comprend le chien quand on lui parle?
Qu'est-ce qu'il comprend? Beaucoup de choses. Parce que le chien, il comprend tout ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que nous, on parle et on croit qu'on comprend l'autre parce qu'il parle. Mais en fait, tout ce qui se passe vraiment, c'est invisible. C'est des vibrations, c'est chimique, c'est tout ce qui est le corps énergétique. Et le chien, il a pratiquement pas besoin qu'on lui parle. Il sent vos émotions, il est en osmose. Et la plus belle démonstration de ça, c'est que malheureusement, le chien est malade de l'homme. Vous avez des cas de propriétaires qui ont des soucis de santé. On va dire par exemple un problème de foie. C'est arrivé souvent que le chien déclare un problème de foie. On sait pourquoi l'homme a attrapé ça, mais le chien, on se demande. Bon, ça c'est un exemple un petit peu caricatural, mais il est vérifié.
Et c'est alors, vrai. C'est par amour
ou c'est ça, j'en sais rien, je comprends pas pourquoi, mais c'est toujours fascinant. On dit aussi que le chien ressemble à son propriétaire. On voit ça dans le dessin animé
Les Cent et Dalmatiens.
C'est vrai.
Ouais.
C'est
magnifique.
Vrai. Oui, on le voit tous les jours dans la rue. Le chien ressemble à son maître.
Quand ils vont au parc, ouais, c'est magnifique ça. Ouais.
Voilà. Et puis le chien de compagnie, c'est le chien thérapeute aussi. Parce qu'on a des enfants tristes ou des enfants qui ont des petits soucis, on arrive à débloquer des situations avec le chien d'une façon assez extraordinaire. C'est l'animal thérapeute.
Est-ce qu'on pourrait, à votre avis, Marie-Hélène Chiarisoli, nous humains, apprendre du chien? C'est-à-dire apprendre à écouter comme lui, apprendre à sentir comme lui, apprendre à peut-être faire taire notre mental pour essayer d'améliorer notre intuition comme lui.
Je pense qu'on aurait beaucoup trop de choses à apprendre, on n'y arriverait pas. On a perdu le sens de l'écoute dans le silence, on a perdu ce sens que les animaux n'ont pas perdu, et surtout les animaux, je dirais, de compagnie, mais pas trop imprégnés de l'homme. Entendre des cris bizarres dans la nuit, on ne sait pas faire ça, nous on ne comprend pas. D'ailleurs, regardez les histoires de tsunami, les animaux se sont réfugiés en hauteur, les éléphants, les oiseaux, on a eu plein d'exemples comme ça, ils ont senti des vibrations dans les pattes, ils se sont échappés, et nous on est incapables d'avoir la lecture de l'animal. À mon avis, c'est juste un exemple qu'on pourrait essayer de suivre, pour méditer peut-être, mais je pense qu'on ne peut pas arriver à leur niveau.
Le docteur Marie-Hélène Charisoli est vétérinaire attachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Avec Eliane, nous avons adoré cette autre histoire de chien, l'histoire d'un chien mapouche de Luis Sepúlveda. C'est édité chez Métayer. Un bébé chien magnifique est trouvé et élevé par des Blancs et il sauve un Indien mapouche, son frère homme, pourchassé dans la forêt d'Araucanie, dans le Walmapu, le pays des gens de la terre. C'est un livre à suspense qui sent le bois et le miel et qui nous a passionnés. Nous, Eliane et moi, qui n'avons plus 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et je voudrais savoir d'où vient le vent et pourquoi change-t-il de vitesse. Merci, au revoir.
Emmanuel Boucry, vous êtes météorologiste à Météo France.
Alors, Lucie, bonsoir. Avant de répondre d'où vient le vent, on va d'abord parler d'un point important qui est la pression. On a de l'air au-dessus de nous. À certains endroits, pour différentes raisons, l'air est plus lourd. On parle d'anticyclone. Et les endroits où l'air est plus léger, on parle de dépression. Alors, une fois qu'il y a des dépressions et des anticyclones, il y en a partout sur notre planète, ça tourne et ça bouge en permanence, et bien, il se passe la chose suivante, l'endroit où il y a une forte pression, donc un anticyclone, l'air va se pousser et va s'évacuer de l'anticyclone. Alors que l'endroit où il y a une dépression, c'est un manque, l'air est léger, donc entre guillemets c'est un manque, et l'air va être au sol, va être aspiré. Et le fait d'avoir à l'endroit où on pousse l'air et à l'endroit où on aspire l'air, ça va déplacer l'air. Et le vent, c'est ni plus ni moins que le déplacement de cet air. Et on imagine bien que quand l'anticyclone et la dépression sont très forts l'un et l'autre, le vent va être violent, alors que quand, au contraire, c'est relativement faible, le vent va être moins violent. Alors, ça, c'est le grand principe. Mais si on regarde un peu plus, en général, autour des dépressions, le vent est vraiment beaucoup plus intense qu'autour des anticyclones.
Donc en fait, ce sont ces masses d'air qui bougent qui provoquent le vent.
Le vent, ça ne traduit simplement que le déplacement des masses d'air.
Mais alors moi, je pensais que c'était le vent qui poussait l'air.
Non, non, c'est les anticyclones et les dépressions qui génèrent le vent. Alors il y a une autre source pour fabriquer du vent, qui est ce qu'on appelle le vent thermique. Où là, c'est avec la température. Ça, on le voit plus, par exemple, quand on est au bord de la mer. Sur la plage, en cours de journée, le soleil chauffe. Il chauffe le sable. Le sable, c'est quelque chose qui restitue beaucoup d'énergie, donc ça chauffe très très vite, alors que la mer, elle restitue moins d'énergie, donc elle chauffe un peu plus lentement. Et on va avoir localement un endroit où on va avoir une dépression et un endroit où on va avoir un anticyclone. Alors, la dépression locale, c'est au-dessus du sable, parce que le sable est très chaud, donc il monte de l'air chaud. Et on va avoir un petit vent léger qui va se générer. Et en général, c'est ce petit vent quand on est au bord de la plage où le soleil cogne et on sent un petit air frais qui passe, qui n'est pas très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle un vent thermique.
Merci Emmanuel Boucry. Dans les petits bateaux, ce soir, nous saurons quand la vie a commencé avec Yves Coppens, comment on fait pour construire des tunnels sous l'eau avec Michel Virlogeux, et si les bébés pleurent dans le ventre de leur mère avec le docteur Ghislaine Dehaene.
À coups de revers, falaise sur les coups, marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous? Des girouettes en trombone, leur lèvre se dédouble sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie. J'éteins les écrans, fermé les yeux, écoutez les enfants jouer, j'écoutais les passants. Écoutez le vent siffler. éteint les écrans, j'ai compté les passants, j'ai fermé les yeux.
Miss Sparrow, c'était les écrans.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous connaissons tous Yves Coppens, paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Vous trouverez ses livres sur le site des Petits Bateaux. Je vous cite « Des pastilles de préhistoire, le présent du passé », édité chez Odile Jacob en 2016.
Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 8 ans et je voudrais savoir quand et comment la vie a commencé. Au revoir, merci.
Bonjour, je m'appelle Étel, j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir quel âge a la vie. Merci.
Yves Coppens.
Alors d'abord à Titouan, je voudrais dire à Titouan que la vie, il semble que la vie soit apparue sur la Terre et qu'elle soit apparue à partir de molécules, c'est-à-dire d'éléments encore plus petits que les cellules. Et c'est un agglomérat, une agglomération de molécules au fond de l'eau, entouré d'une membrane qui a fait la première cellule vivante et qui avait surtout pour propriété de pouvoir se reproduire. Quant à l'âge de la vie, est-elle, eh bien, sur la Terre, on trouve la vie à partir de 4 milliards d'années. La Terre a 4 milliards 600 millions d'années. Et donc la vie n'apparaît pas tout de suite, et elle est peut-être apparue sur la Terre, comme je l'ai dit à ton petit camarade, mais elle est peut-être aussi venue d'ailleurs, elle a peut-être été ensemencée, semée, à partir de toute façon d'autres planètes du système solaire, parce qu'autrement c'est trop loin.
Quand vous dites, Yves Coppens, que ces cellules pouvaient se reproduire, en fait c'était toutes les mêmes, c'était un peu photocopieuse.
Au début, c'était tout à fait les mêmes cellules, et les cellules se sont très très vite diversifiées parce qu'elles se sont trouvées dans des environnements différents, donc se sont adaptées à ces environnements, et c'est cette adaptation qu'on appelle la diversité biologique ou biodiversité.
Quand on faisait quelque chose qui ne servait à rien, ma grand-mère disait « c'est comme si tu avais creusé dans l'eau ».
Bonjour, je m'appelle Gaston. J'ai 6 ans et j'aimerais bien savoir comment on fait pour construire les tunnels sous l'eau.
Bonsoir Gaston, c'est vrai que c'est vraiment mystérieux. Et pourtant, ça existe, vous le savez bien, Michel Verlogeux.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de tunnels.
Vous êtes un spécialiste des ponts.
Des ponts. Mais je sais quand même comment on construit un tunnel. En fait, il y a 3 sortes de tunnels. Le tunnel le plus classique, c'est ce qu'on appelle le tunnel forêt. C'est-à-dire qu'on a une machine qui est une espèce de train, avec en tête de train une espèce de grand bouclier. Et vous avez une machine qui va extraire le sol, qui va grignoter le sol progressivement.
Et au fur et à mesure... Et le sol qui est donc en dessous du
dessous
fond de l'eau,
en dessous
de la mer ou du fleuve.
On va passer en dessous, ça c'est le forêt, on passe en dessous. Et en général, assez profondément en dessous pour avoir assez de couverture au-dessus du tunnel pour pas être trop embêté par l'eau. Mais il y a toujours de l'eau dans le sol. Il y a la nappe phréatique, il y a toujours de l'eau.
Ah oui, dans tous les sols, il y a de l'eau.
Il y a toujours de l'eau. Alors, sauf évidemment, dans quelques cas très pratiques, vous avez des roches extrêmement imperméables, mais enfin, c'est quand même assez rare. Peut-être que, en Norvège, là, dans le granit, mais en tout cas, en général, le problème, c'est avec l'eau. Alors, derrière, si vous avez le train, on va mettre, au fur et à mesure, une couronne de voussoirs préfabriqués. Il y a des vérins, là, qui viennent pousser, et on fait la place pour mettre toute une petite couronne d'éléments préfabriqués qui forment un nouvel anneau. Et puis on recreuse et on remet un anneau. Et on recreuse et on met un anneau. Et comme ça, on progresse et on va arriver sous l'eau en étant étanche. On va évidemment envoyer de l'injection entre les voussoirs préfabriqués et le sol de façon à garantir l'étanchéité. Voilà. Donc ça, c'est la première technique. Il y a une seconde technique qui est ce qu'on appelle les tunnels immergés. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le terrain sous l'eau, on va se poser au fond de l'eau. Alors là, c'est plus compliqué. Alors pour le faire, ça, il faut fabriquer des tronçons de tunnels qu'on va fabriquer dans ce qu'on appelle une forme de radou, ou un dry dock pour les Anglais, c'est-à-dire une espèce de grand trou dans la côte, là, près d'un fleuve ou de la mer, qui est fermé, alors qui est évidemment bétonné, très costaud et tout, et qui est fermé par une porte qui peut s'ouvrir et se fermer. Et donc, il est sous l'eau, évidemment, on ferme la porte, à ce moment-là, on va vider la forme de radou de l'eau qu'il y a dedans, Là, on va construire l'élément préfabriqué. Quand il sera fabriqué, évidemment, c'est un tube, mais provisoirement, il est fermé aux deux bouts. Parce qu'autrement, l'autre rentrerait. Donc, pour qu'il puisse flotter, il faut qu'il soit fermé aux deux bouts. Et alors là, on va ouvrir les portes. Le caisson va se retrouver en flottaison, avec des remorqueurs en place. Et puis là, on va venir le descendre juste au contact du précédent. À ce moment-là, astuce, on va ouvrir la paroi qui fait la fermeture du côté du précédent. Et là, automatiquement, par la pression de l'eau de l'autre côté, il va venir au contact du précédent.
Ça va le coller.
Il va venir coller. Alors évidemment, il y a des joints, alors des gros joints qui font l'étanchéité en caoutchouc, là, qui sont comme ça, et qu'on a appelé les joints Gina, en pensant à Gina Lolo Brigida. Voilà.
C'est vrai ?
Oui,
c'est
absolument.
Drôle. Les ingénieurs sont rigolos.
Voilà. Et on va mettre, évidemment, de la précontrainte ou des choses pour que la liaison soit définitive. Et donc, progressivement, alors la difficulté, évidemment, c'est qu'il faut avoir préparé le niveau de la mer ou du fleuve pour que les différents tronçons de tablier arrivent au bon endroit et tout. Et ça, c'est quelquefois difficile. Quand il y a de la marée, dès qu'on fait un trou, il se remplit. Enfin, donc, voilà. Ça, c'est quelque chose de difficile. Et puis, il y a une troisième sorte. De plus en plus difficile, comme disait Garcimore, hein, ce sont les tunnels flottants. Et là, si vous voulez, au lieu de se poser au fond de l'eau, eh bien les tunnels, ils vont rester au milieu de l'eau. Et là, ça va être une espèce de tube hein, qui va être fabriqué de la même façon que les tunnels immergés, mais il va falloir les tenir au fond de l'eau par des câbles et des contrepoids qui seront dans l'eau. Et donc, on va avoir un tunnel qui va flotter dans l'eau. Alors, il y en a très très peu. Et puis, c'est un petit peu stressant, je pense.
Inquiétant, oui.
Un petit peu inquiétant. Mais en réalité, pour être honnête, c'est pas plus compliqué qu'un tunnel immergé. C'est le même problème d'étanchéité que pour un tunnel immergé. Mais c'est un tunnel flottant.
Quelle affaire, quand même, mais quelle affaire! Alors, pour la jeune génération qui ne connaîtrait pas Gina Lolo Brigida, c'est une très belle actrice italienne, brune, à forte poitrine. Michel Virogeux, lui, est ingénieur, consultant, concepteur de grands ponts dans le monde entier. En France, on lui doit le pont de l'île de Ré et le viaduc de Millau.
I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked.
C'était Haïm The Wire sur France Inter dans les petits bateaux où vous pouvez poser une question en faisant le 01 56 40 43 57. Avez-vous déjà regardé fixement un bébé qui lui-même regarde fixement? On se dit, mais à quoi pense-t-il? Quel regard jette-t-il sur ce monde dans lequel il vient d'arriver? Et que faisait-il avant?
Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai 6 ans et demi. Et je voudrais bien savoir si les bébés pleurent dans les ventres des mamans. Merci, au revoir.
Elle vous demande, Lola, docteur Ghislaine Dehaene, vous êtes pédiatre et chercheur au CNRS, si les bébés pleurent dans le ventre des mamans. C'est dur de savoir ça.
Non, je pense qu'on le sait assez facilement. En fait, le ventre de la maman est le paradis perdu. C'était l'endroit où on était au chaud, où on n'avait pas besoin, on n'avait pas faim. Tout nous arrive par le sang. Donc en fait, c'est le paradis perdu. On était parfaitement bien.
Ah, vous croyez? Même une maman ultra stressée?
Même une maman ultra stressée, parce que bon, tout nous arrive de façon en plus atténuée. On n'est pas les bruits extérieurs, le pimpon désagréable, le téléphone qui sonne à n'importe quel moment. Tout est filtré par le liquide amniotique et les muscles de le muscle utérin et les muscles abdominaux de la maman. Donc vraiment, c'est un monde parfait. En plus, il semble que le placenta sécrète des substances qui endorment le fœtus, qui le mettent aussi dans un état zen. Et en fait, on voit qu'au moment de la naissance, il y a même une préparation du fœtus pour naître. Et au moment de la naissance, c'est vraiment un choc pour le bébé qui arrive dans un monde où tout d'un coup, il va faire froid. Il était à 37 degrés, il va tomber à quoi, même si on chauffe les maternités, à 20, 22 degrés. Là, il va sentir l'air sur sa peau, il va tout d'un coup avoir des lumières dans les yeux, il va avoir des sons qui lui arrivent dans les oreilles. On ne s'en rappelle pas, mais c'est vraiment un moment très important et un changement très brutal dans la vie du bébé, de passer de l'état de fœtus à l'état de bébé.
Alors Lola demandait si le bébé pleurait. C'est non. Quoi pleurer? C'est faire des larmes?
C'est faire des larmes. Alors en plus, on ne les verrait pas parce que le bébé est dans un milieu liquide. Mais ce qu'on voit maintenant avec l'échographie, c'est bon, peut-être il ne pleure pas parce que je vous ai dit qu'il était très bien. Il suce son pouce. Il sourit, on le voit. Il sourit, bien sûr, on le voit sur l'échographie maintenant qu'on a ces superbes machines qui nous permettent de voir les bébés en trois dimensions. On les voit sourire, on les voit faire des grimaces. Alors peut-être que c'est...
C'est pleurer.
Non, c'est pas pleurer. C'est parce qu'en fait, il boit aussi le liquide amniotique de sa maman. Et suivant ce qu'elle mange, il sent le goût de ce qu'elle a mangé. Alors peut-être qu'il a pas aimé les choux de Bruxelles. Je spécule un peu. Mais disons que c'est très important parce que des chercheurs comme Benoît Châle, par exemple de Dijon, ont montré que le bébé se souvenait des odeurs et des goûts du liquide amniotique de sa maman. C'est pas encore un bébé, c'est encore un fœtus, fait vraiment beaucoup de choses et commence déjà à apprendre pendant la vie intra-utérine. Il apprend par exemple aussi à reconnaître la voix de sa maman. Des chercheurs ont également montré que si on teste un bébé à la naissance avec la voix de sa maman et la voix d'une autre maman, donc il n'a que quelques heures de vie, il reconnaît la voix de sa maman. Alors malheureusement pour les papas, pas tout de suite, parce qu'évidemment la voix de la maman est très proche des oreilles du fœtus. Quand elle parle, sa voix va se transmettre le long de ses os, le long du liquide et directement dans les oreilles du fœtus.
Comme il est dans le ventre de la maman, il entend tout ce qu'elle dit. Papa.
Exactement.
Est pas là avec
et papa, il est plus loin. Donc évidemment, maman est plus facile à apprendre. Donc il se souvient de maman.
Vous vous rendez compte le traumatisme que ça doit être que de naître? Déjà, nous, on change de bureau à France Inter, c'est un bazar. Les petits bateaux, c'est terminé pour ce soir, mais vous pouvez nous rejoindre sur notre site ou bien podcaster cette émission, la partager et l'écouter quand bon vous semble. Merci à Marjorie de Voucou, à Eliane Girard, à Anne-Laure Cochet et à Jean-Baptiste Audibert. Nous nous retrouverons ce soir à 22h pour État d'esprit. Je recevrai l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt pour sa pièce Le Chien.